1 Jean au chapitre 1, donc on peut lire ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Seigneur, on veut considérer aujourd'hui le fait que tu es lumière. Il n'y a point en toi de ténèbres. Et merci parce que c'est toi qui jettes la lumière sur nos vies et qui jettes aussi la lumière de ce que tu as pour chacun de nous ici ce matin. Merci que tu es un Dieu personnel, bienveillant, qui veille sur chacun de tes enfants et aussi qui se révèle encore à ceux qui sont dans les ténèbres. Merci pour ça, Seigneur. Et notre prière, ton peuple ici réuni, c'est que tu accomplisses tes œuvres bienfaisante et bienveillante, Seigneur, envers chacun de nous. Et premièrement, Seigneur, s'il y en a qui ne te connaissent pas encore, qui sont encore dans les ténèbres, Seigneur, jette la lumière de l'Évangile sur leur cœur, la lumière de Jésus, sa personne et son œuvre, et qu'ils se confient, qu'ils répondent à cette lumière. Et pour nous aussi, Seigneur, tes enfants, on veut marcher dans la lumière. Et donc, on s'en remet à toi pour ce que tu as pour nous ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, ici, dans 1 Jean, cette ouverture, hein, cet épilogue qui est très court, juste 10 versets, révèle l'essence de ce qu'est marcher dans la lumière. C'est-à-dire, c'est marcher en communion, comme on le voit au verset 3, avec le Dieu qui est lumière, comme on le voit au verset 5. Donc, marcher dans la lumière, c'est marcher avec Dieu. Marcher dans sa lumière. Et c'est un peu, je vais faire un parallèle à ce qu'on a déjà vu dans les dernières semaines, d'autres facettes de notre marche avec le Seigneur. Mais vous connaissez Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, ça va ici dans le même sens. Comme dans Éphésiens, on n'essaie pas de créer l'unité de l'esprit, mais on conserve cette unité qui est déjà là, parce que Dieu lui-même est parfaitement uni en lui-même, et quand on est en lui et on est ses enfants, nous sommes unis par l'œuvre de Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ben, c'est la même chose pour marcher dans la lumière. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de créer, ça vient de Dieu lui-même et qui habite en nous par son Saint-Esprit. Autrement dit, nous sommes en relation, en communion avec Christ en nous, l'espérance de la gloire, Jésus qui vit dans chacun de ses enfants, si cette communion, cette relation est vivante et vibrante, alors nous allons être non seulement en communion avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Et on l'expérimente aujourd'hui, des fois il peut y avoir une barrière de langage, une barrière de culture, mais en Christ, il y a une unité que On peut pas créer ça. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie, puis c'est comme si c'était notre voisin depuis 50 ans. Il y a vraiment quelque chose de spécial, puis ça, ben, c'est celui qui est spécial, qui vit en nous. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui nous unit comme ça. Et donc, j'aimerais qu'on considère un peu des éléments dans le verset 1, dans le chapitre 1 de 1 Jean, avant de s'en aller dans Éphésiens 5, parce que c'est là qu'on va aller par la suite. Mais quand on voit, par exemple, à la fin du verset 7, ça nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dans le temps de verbe qui est utilisé ici, ça parle d'une action continue. Ça parle comme un flot incessant. Le sang de Jésus est la fontaine qui sans cesse nous purifie de tout péché. Nous sommes dans cette communion par le sang de Christ. Et ça, c'est pour tous les enfants de Dieu, ceux qui l'ont reçu comme leur sauveur personnel. Et ça réfère à l'état constant de pureté, de communion provenant par l'œuvre de Christ en notre faveur. Mais là, qu'en est-il? Lorsqu'on comprend le verset 7, spécialement la fin donc, que je viens d'expliquer, qu'en est-il des versets 8 et des versets 9 et des versets 10? Quand on voit, hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bob George appelle ça la barre de savon chrétienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment qu'on devrait comprendre ces choses-là? C'est pas le sujet de tout le message, mais je veux l'amener en introduction parce que c'est important. Je crois que premièrement, OK, il peut y avoir des applications, mais premièrement, ces versets 8 à 10 ne sont pas pour les chrétiens, les enfants de Dieu, mais pour ceux qui se disent ou qui se pensent chrétiens, parce que c'est beaucoup dans le sujet d'un Jean, t'es-tu vraiment un chrétien? Puis c'est comme, ils pensent les chrétiens au test de la vérité, de la parole, de l'amour chrétien, puis dans le fond ici, dans l'ouverture, ils amènent ça d'emblée, hein, c'est très typique aussi des auteurs bibliques, ils tournent pas autour du pot, ils s'en vont directement avec ça. Les gens qui se pensent chrétiens, mais qu'ils ne sont pas en vérité. Et c'est en harmonie avec le reste de la lettre parce que 1 Jean, c'est vraiment l'épître qui est écrit pour donner de l'assurance à ceux qui sont vraiment chrétiens, mais aussi penser au test de la parole de Dieu, ceux qui ne le sont pas vraiment, pour savoir vraiment s'ils sont réellement sauvés, qui ont vraiment le Dieu sauveur dans leur vie, le Dieu vivant qui vit en eux. Et c'est pour ça que quand on lit verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est-à-dire qu'on renie notre nature pécheresse, est-ce qu'un enfant de Dieu renie sa nature pécheresse? Non. C'est justement une des choses fondamentales lorsqu'on vient à Dieu, on se reconnaît comme pécheur. OK? C'est pour ça qu'il y a des mots si... imaginez-vous que si Dieu disait ça à un chrétien, nous nous séduisons nous-mêmes, mais la vérité n'est pas en nous. Si on est enfant de Dieu, Jésus, la vérité, vit en nous. OK? C'est pour ça que je vous dis, il ne parle pas à des chrétiens ici, mais des gens qui se pensent, qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas en réalité. Même chose pour verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est-à-dire commis des actes de péché. Alors moi, je n'ai pas péché. Tu sais, renier le fait qu'on pêche, non seulement la nature, mais l'acte de péché. Verset 10, la nature. Verset 8, la nature pécheresse. Verset 10, les actes de péché. Ça dit, encore là, est-ce que c'est des paroles qui sied à un chrétien? Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Encore là, ça ne peut pas parler de chrétien. Parce que la parole demeure en nous. Et donc, ça ne peut pas parler de chrétien. Et c'est pour ça que je pense que dans la sandwich, dans le plein milieu, quand ça nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, c'est un appel à ceux qui ne sont pas sauvés, pour dire, si tu confesses, si tu viens à Dieu en tant que pécheur, en tant que personne qui fait des péchés, il va te pardonner, il est fidèle et juste. C'est un appel au salut. Et c'est l'appel que je commande d'habitude, l'appel est à la fin, là l'appel est en plein début. Si vous êtes ici, puis que vous confiez dans le fait que vous êtes une bonne personne, que vous n'avez pas trop fait de mal, ou il y a une espèce d'échelle dans votre imagination, de bonnes œuvres versus les mauvaises œuvres ou les péchés, la vérité n'est point en vous. Puis, vous faites Dieu menteur dans le sens que vous pensez que vous pouvez faire mieux que ce que Dieu a fait lui-même pour vous sauver. C'est-à-dire que Dieu, en envoyant son Fils, ça ne serait pas la vérité, ça ne serait pas le besoin ultime de l'humanité. Vous vous mettez au-dessus de Dieu. Je ne veux pas mâcher les mots, mais je veux vous amener face à la réalité. Si vous essayez de vous sauver vous-même, si vous vous confiez dans votre bonté intrinsèque, dans votre bonté interne à vous, vous vous élevez contre Dieu qui veut que vous humiliez pour reconnaître que le salut vient de l'Éternel. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et les bonnes œuvres, la Bible est claire, ça dit, il nous a sauvés non par les bonnes œuvres que nous aurions faites. Et ça dit qu'on est sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, sur ces paroles, où est-ce que l'appel est lancé? Et savez-vous, ce n'est pas plus compliqué. Je ne suis pas ici pour vous condamner puis vous faire sentir mal. Je suis ici pour vous amener Jésus. Si vous reconnaissez votre besoin, il est la solution. Il est celui qui comble tous les besoins, mais d'abord et avant tout, le besoin d'être réconcilié avec Dieu, d'être purifié, d'être pardonné. Une fois pour toutes, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à celui de Dieu. Le pont, c'est Jésus. Sur ces paroles, tournez avec moi, puis là, on ne va pas retourner dans 1 Jean, on s'en va dans Éphésiens 5. Et là, le reste du message, je vais m'adresser principalement aux enfants de Dieu, aux chrétiens qui ont mis leur foi en Jésus, dont la seule espérance est Jésus, puis espérance, c'est pas un 25 cents qu'on tire dans les airs, puis on espère qu'on va être sauvé, c'est la ferme attente que nous allons avoir. C'est des promesses qui ne sont pas encore pleinement accomplies. Si vous êtes ici, vous êtes sauvés pleinement et parfaitement. Mais on n'a pas encore toute la bénédiction de ce salut, c'est-à-dire, on est encore sur une terre déchue, on a encore le péché en nous, mais un jour, on sait qu'on va être dans la présence même de Dieu, plus de péché, plus de larmes, tout essuyé de nos yeux. Et donc, on attend la pleine délivrance, même si en ce moment, il nous délivre du péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, j'aimerais lire avec vous Éphésiens au chapitre 5. On va lire les versets 8 à 14. Ça va être ça le sujet de notre texte ce matin, avec deux points qu'on va considérer par rapport à marcher dans la lumière. C'est le titre du message, marcher dans la lumière. Donc, on lit ici dans Éphésiens 5, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » En fait, on vient de lire ici des vérités qui vont très bien avec celles qu'on a lues auparavant dans 1 Jean. C'est-à-dire que dans 1 Jean, on a l'essence de ce que c'est de marcher dans la lumière. Hein, je l'ai dit, c'est être en communion avec Dieu, avec les uns, avec les autres. C'est la communion de marcher dans cette pureté qu'on a par le sang de Christ. Et donc, c'est l'essence même de c'est quoi marcher dans la lumière. Mais ici, Paul, dans Éphésiens, nous donne des explications plus détaillées. Il développe de façon pratique les implications de cette marche. Et ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est simplement deux composantes de notre marche dans la lumière. Deux composantes de notre marche dans la lumière. D'abord, dans les versets 8 à 10 qu'on a lus, on a le choix de marcher dans la lumière. On a le choix de marcher dans la lumière. Hein? Ça nous parle ici, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On a un choix ici. Puis là, ça parle aussi des œuvres infructueuses des ténèbres, les condamner, puis tout ça, puis pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. On a un choix. On a un choix par rapport à ce qu'on décide de faire avec ce qu'on n'a pas le choix qui nous arrive. Les affaires, là, on aimerait bien ça que ça ne soit pas arrivé, mais ça nous est arrivé. Ça, on n'a pas le choix. Dieu nous envoie dans sa souveraineté puis dans sa bonté ce que lui sait dont on a besoin. Puis ça, on n'a pas le choix. Mais on a le choix de répondre par la foi ou par la vue, par l'esprit ou par la chair, en marchant dans la lumière ou en marchant dans les ténèbres. Et donc, On a toujours le choix de répondre à ce que nous n'avons pas le choix. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais ça m'est arrivé, j'ai pas eu le choix. » Puis, OK, c'est vrai, mais quand on est centré là-dessus, on néglige notre responsabilité. C'est vrai qu'on n'a pas choisi dans quel pays, dans quelle famille, dans quelles circonstances on est né, les choses qui nous ont arrivées. Puis, il y a des gens qui sont arrivés des choses terribles. Et ça, c'est pas qu'on veut renier ça puis dire que ça n'a pas d'importance, ça ne joue pas un rôle dans notre vie. Mais là où on a le choix, c'est comment on répond à ça. Parce que c'est là que Dieu veut nous rencontrer. On va développer ça. Parce que les versets qu'on vient de lire réfutent l'idée que les chrétiens devraient vivre dans une espèce de bulle chrétienne, loin et séparés du monde. En fait, loin de là, l'idée ici, c'est plutôt en harmonie avec l'incarnation. Jésus n'est pas resté au ciel puis nous faire des beaux discours puis nous dire comment que les choses devraient être et tout ça. Non, il est venu en plein dans notre monde brisé. Et là-dessus, j'ai retenu un verset que j'aime tellement. Hey, j'ai du Ésaïe aujourd'hui, Maxime. Il y a pas mal de beaux Ésaïe. On avait même d'un verset aujourd'hui. Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ce verset-là est accompli dans Matthieu 4. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retirant en Galilée et quittant Nazareth pour demeurer à Capernaum, qui est devenu son quartier général, situé dans la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ça, c'est Ésaïe 9 que je viens de vous lire avant. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres. Il n'est pas allé vers les gentils garçons, les bonnes petites filles. Il était allé dans les ténèbres les plus épaisses. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ces textes nous révèlent l'invasion rédemptrice par la lumière dans les ténèbres. Les ténèbres ont été visitées par la lumière. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Comme quand on allume une lumière dans une salle, les ténèbres s'enfuient immédiatement. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière, mais la présence de lumière fait chasser tout ténèbre. Et quand on parle du domaine spirituel, quand Dieu est là, les ténèbres s'en vont parce que Dieu est lumière. Et notre texte ici nous dit, ce qu'il nous dit à nous là ce matin, c'est que ce même Dieu qui vit en nous, nous appelle à lui en réponse par la foi, par la confiance, par la dépendance à lui, au milieu même de la guerre spirituelle, au milieu même des ténèbres où il nous place. On a un petit groupe de 5 personnes dans notre église qui s'en va dans un endroit ténébreux de notre province. Au nord, il y a beaucoup de communautés autochtones, puis les ténèbres sont épaisses. Spirituellement, avec du spiritisme, puis de ce qu'on appelle la spiritualité autochtone, mais aussi la boisson, l'inceste, toutes sortes de choses, comme ça dit, qui sont honteuses, qui sont dans les ténèbres. Et on ne va pas là comme sauveur, mais on va avec le sauveur qui vit en nous et qu'on veut exalter, qu'on veut prêcher. Et c'est notre appel. Écoutez, là, c'est spécialement notre petit groupe, mais ça s'applique à tout le monde, mais vous savez quoi? On peut dire ça, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » On a un sens d'appel. Pensez-vous que c'est un hasard qu'on voit la gang qu'on a? Non, puis on ne va pas tout seul, parce que ceux qui ne viennent pas avec nous physiquement, je sais que vous allez venir avec nous spirituellement, vous allez nous assister de vos prières, de votre support moral. Et donc, le but comme ça d'envoyer, puis on peut dire que comme Église, on y va, il y a des représentants, puis il y en a des représentés, mais comme Église, afin que leurs yeux, tu leur ouvres les yeux, que Dieu, leur ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et si on compare ça avec Tite 2. On est dans Tite les mercredis soirs. Dans Tite 2, au verset 11, ça dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ça, c'est Jésus. Et cette grâce, Jésus en nous, les enfants de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que Jésus lui-même, par son Saint-Esprit, nous enseigne. Jésus nous enseigne à marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Il nous enseigne à renoncer aux œuvres des ténèbres. C'est lui qui fait ça. Nous tous serons enseignés de Dieu quand on est un enfant de Dieu. C'est ce qu'il fait dans nos cœurs. On peut lire notre Bible, on peut assister à l'Église et tout ça, mais si le Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui fait l'œuvre, c'est en vain. Parce que c'est une œuvre divine dans les enfants de Dieu. Et ça nous montre l'importance vitale de combattre avec les armes de lumière. Écoutez Romains 13. « Cela importe d'autant plus que vous savez dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Il y a dit ça il y a 2000 ans. Parce que nous, on est très, 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 très avancés. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qu'est-ce qu'on voit dans ça? Ben, je vais l'expliquer dans un instant, mais on voit qu'on est dans une guerre spirituelle et que ce qui est garant de la victoire, c'est la foi dans celui qui est notre victoire. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Et donc, et cette armure est complète parce que l'armure, tu sais, l'armure du chrétien, notre frère Josiah avait amené un bon message là-dessus, là, je pense que c'est l'année passée. Mais l'armure chrétienne, c'est Jésus lui-même. Revêtez-vous de l'armure, revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est, on a tout pleinement en lui et toutes ces choses, vous irez écouter le message, c'est tous des aspects de Christ, de sa personne et de son œuvre, desquels nous bénéficions. Donc, se revêtir du Seigneur Jésus, c'est simplement de vivre par la foi dans la conscience que nous sommes dépendants à lui, envers lui qui vit en nous. Dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a fait de nous et avec nous. C'est être conscient d'être dépendant de la grâce de Dieu et du Dieu de la grâce. Et là-dessus, je vais vous amener quelque chose de tellement précieux. Je pense, maintenant, je ne sais pas partager ça déjà, peut-être un mercredi, mais bon. Pour rien, ça sera de l'extra. De toute façon, c'est tellement extraordinaire, ça vaut la peine d'être répété. Tout le monde ici connaît d'ailleurs, je pense, avoir deux chocolats. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notre Seigneur. Il y a une vérité précieuse là-dedans que je veux vous partager ce matin, c'est que on parle de Dieu qui est notre provision et tout ça, puis je pense que la clé de ce qu'on voit dans ce verset-là, je parle de dépendre de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie, quand on supplie Dieu? On est en train de dire, Dieu, je dépends de toi, je ne peux pas vivre par moi-même, je n'ai pas les ressources en moi-même. Donc, on exprime comme ça notre dépendance à Dieu. Mais notez que le verset n'est pas fini. Que ça ne va pas tout dire, OK, prière, supplication, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Non, il y a quelque chose entre les deux. Les actions de grâce. Voici la simple vérité que je vais vous partager. On dépend de Dieu, puis on le prie, on le supplie, mais savez-vous où est-ce qu'on va expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? C'est quand on dit merci Seigneur pour ta provision. Et c'est quoi ici la puissance du verset? C'est quand on dit merci? Parce qu'on a reçu quelque chose. Tu sais, je te donne 100 piastres. Je pense que tu vas dire merci. Sinon, tu n'es pas prêt à reconnaître ça. Mais quand on dit merci, Elle dit, essaye donc. Quand on dit merci, c'est parce qu'on a reçu quelque chose, puis c'est ça. On est dans des situations, des fois, de grands besoins, de dépendance, où est-ce qu'on le sent tellement fort, et on prie, puis on supplie. Mais c'est quand qu'on arrive à dire « Merci Dieu pour ta provision. Merci Dieu que tu es ma paix dans cette situation qui me déflaboxe au complet. Merci que tu es ma joie, merci que tu es mon refuge. Toi, tu es ma provision. » C'est pour ça qu'on dit merci, pas parce que tout s'est réglé, puis que là, OK, je vais dire merci là, quand je comprends tout, puis quand tout s'est réglé, puis que tout est beau. On va pas dire merci souvent, hein? Parce que souvent, ça arrive après qu'on voit les choses puis qu'on les comprend. Mais par la foi, on dit, Seigneur, je suis dépendant, je comprends rien, puis je suis en situation de totale dépendance, mais merci que toi, dans le milieu de ce que je vis, toi, tu es ma provision, toi, tu es le moyen d'en sortir. Et c'est ça, se revêtir de Christ. C'est ça que ça veut dire d'être conscient de notre dépendance. Dieu, oui, je dépends de toi, mais merci qu'en tout point, j'ai tout le temps la provision en toi et par toi. Donc, j'espère que ça vous aide à voir, à comprendre comment marcher dans la lumière, c'est la grâce de prendre la provision de Dieu. Parce que Dieu, il va pointer, il va mettre la lumière sur ce qui est problématique dans notre vie, sur ce qui est dans les ténèbres, sur le péché, sur la tromperie, sur okay, les faux raisonnements, les forteresses. Mais il va aussi jeter la lumière sur lui-même. Comment il est la vérité, comment il est la bonté, il est la solution à ce qui vient de nous révéler, de ce qui est problématique, il est la solution. Et c'est ça, marcher dans la lumière, et pour ça on a le choix, dans le milieu de ce qu'on vit, on peut se morfondre, on peut être pris dans toutes sortes de découragements, puis de pensées, puis de forteresses qui nous tirent vers le bas, où on peut lever les yeux. Puis quand on lève les yeux, on fait le choix de choisir la vie. Choisir la provision de Dieu. Là-dessus, je veux terminer avec ce point-là, avec deux versets. Ça nous dit dans l'ouverture de Jean, pas de 1 Jean, mais de Jean, « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » C'est ça la vie chrétienne. Dieu nous fait grâce, puis il n'a pas fini, puis c'est tout le temps. Je veux dire, grâce sur grâce, c'est une grâce abondante, c'est une grâce que lorsqu'on bénéficie d'une grâce, bien Dieu a encore d'autres grâces pour qu'on puisse continuer à toujours marcher par sa grâce. Et le moyen, c'est par la foi. Parce qu'en elle est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Romains 1, 17, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pour vivre de la grâce de Dieu, il faut vivre par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. La foi dans le Dieu qui est notre provision, qui est notre tout en tous. Donc c'est ça le choix de la foi, le choix de marcher dans la lumière. La deuxième chose que j'aimerais qu'on voit, c'est dans les versets 12 à 14, c'est la grâce de marcher dans la lumière. Voyez avec moi le verset 12. « Car ils ont honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. » C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » L'exposition de ce qui est honteux, de ce qui est ténébreux, comme dans les versets 12 et 13, l'exposition, c'est l'essence même de la grâce de Dieu. Et je veux revenir sur Ésaïe et Matthieu, Ésaïe 9 et Matthieu 4. Le moyen par lequel Dieu opère sa rédemption, ça commence par la révélation de ce qui est dans les ténèbres. Jésus est venu, on le voit dans Ésaïe, dans l'endroit le plus ténébreux qu'il y avait en Israël. C'est là que lui s'est manifesté comme étant la lumière. Et ça nous amène à un point tellement important ici dans le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Christ t'éclairera. Comme avec Ésaïe, c'est Dieu qui est la lumière du monde, qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et là-dessus, ça nous amène à un autre passage, en fait deux passages dans Ésaïe que je veux vous lire à l'instant. D'abord, Ésaïe 26, 18 et 19. « Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas venus à la vie. » Ça, ça va pas très bien. Là. Vous savez quoi? On peut dire, ça c'est le Canada d'aujourd'hui. C'est les États-Unis d'aujourd'hui, c'est... C'est le monde déchu dans lequel on est. Mais écoutez ce que ça dit. « Que tes morts revivent, que tes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux morts. » Dieu, voyez-vous comment c'est le Dieu vivant, le Dieu de la résurrection, le Dieu qui change les ténèbres en lumière. Et encore dans Ésaïe 60, on peut dire « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Ça, c'est dans ceux qui connaissent le Messie d'Andel. C'est un tellement beau passage dans le Messie d'Andel. Là. Je ne vais pas vous le chanter parce que je vais vider l'église. Là. Mais lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Ésaïe 60, versets 1 à 4. C'est ça la grâce de marcher dans la lumière. Parce que ce n'est pas nous qui sommes la source de la lumière, la source de la puissance, la source de la sagesse, la source de la vie, on n'est rien de ça, mais Jésus est notre lumière, il est notre vie, il est notre sagesse. D'où l'importance que tout soit manifesté en pleine lumière pour arriver à jouir de la plénitude de la grâce de Dieu, de marcher dans la lumière. Puis là, je vous l'illustre avec un point. Encore là, ça, je me rappelle, j'ai partagé ça un mercredi, puis je ne vais pas partager le nom parce que c'est dans le ministère de prison, surtout que là, on est enregistré, mais il est arrivé quelque chose de vraiment spécial l'autre jour dans le ministère de prison où est-ce que j'étais comme ça à partager Christ. Moi, vous savez, quand j'ai un auditoire à la prison, beaucoup vont confesser Christ, mais souvent, ils vont me dire, c'est dur de savoir si vraiment son nez est nouveau. Et là que c'est clair, je pense à certains, où est-ce qu'on voit vraiment l'œuvre de grâce, où est-ce qu'ils sont vivants en Jésus. D'autres, c'est moins clair. Puis là, j'étais avec un peu cette situation-là, où est-ce que... C'était plutôt clair que ces deux détenus ne connaissaient pas encore le Seigneur. Mais quand on prêche Christ, quand on élève Jésus, les hommes sont attirés à lui. Donc, c'est ce que je faisais. Je prêchais Christ, puis je partageais les vérités de sa personne et de son œuvre. Et on arrive à un moment où est-ce que cet homme, il n'était pas choqué, mais il y avait une colère en dedans lui. Il dit, « Mais moi, je ne connais pas Dieu. » Puis, quand je prie, j'ai pas de réponse. Puis, je comprends rien aux vérités que tu m'amènes. Puis là, il commence à dire, puis là, il y a l'autre, puis je dis, c'est qui l'autre? Ben, Satan. Fait que là, le gars était découragé, mais en même temps, une confession vraiment, waouh, tu sais, c'était une transparence. J'ai dit, merci pour ton honnêteté. Merci de t'ouvrir. Il y avait l'autre détenu qui était là. C'est là comment Dieu travaille. L'autre détenu, il partage Jean 3,16. Mais pas de façon condescendante, tout à fait. Puis lui, que hey, Dieu a donné son fils. Dieu nous dit. Fait que c'est ce que j'ai demandé. J'ai dit merci pour ton honnêteté, mais est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois qu'il suscite toi en ce moment dans ce que tu es en train de me partager là? Il dit oui. Il dit je peux-tu prier pour toi? Il dit oui. Je suis approché de lui, je suis comme ça autour de lui. C'est un moment tellement spécial. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Dieu était là en toute simplicité. Puis cet homme-là, Dieu lui a fait la grâce de mettre la lumière sur les ténèbres de son cœur et de sa vie. Puis il a répondu à ça. On dit, hey, c'était pas très beau. Hein? Non, c'était vraiment très beau. Parce qu'il parlait des ténèbres, mais en même temps, il y avait l'espoir que le Dieu qui est lumière ne l'avait pas abandonné. Puis, son attention, avec ce que je viens de raconter là, son attention est passée de lui, puis Satan, ça le décourageait, à Dieu. Puis Jésus-Christ qui est venu pour lui, puis qui a montré qu'il l'aime en allant sur la croix pour lui. Wow! C'était un moment tellement précieux. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la lumière là où est-ce qu'il y avait des ténèbres. Et je veux prendre le temps d'expliquer un peu plus, c'est important ici, là. Cet homme-là, il disait qu'il ne comprenait pas grand-chose sur les choses spirituelles. Mais il y a quelque chose qu'il pouvait comprendre. Il pouvait croire, puis se confier, puis avoir l'espérance que Dieu, il veut, puis il peut le sauver. Le délivrer de ses peurs, de son désespoir, et lui donner un cœur nouveau. Et c'est comme ça que la lumière de la parole sur son cœur de ténébreux l'a poussé au Dieu de la grâce. Et donc, ça a été ce jour-là la révélation de Dieu qui a changé absolument tout. Et écoutez bien ceci parce que la clé ici qui a ouvert les choses pour que ça puisse, comme on dit en québécois, débourrer, que ça puisse débloquer, c'est de croire que Dieu l'aimait lui. Ça, c'est tellement important. Il y a beaucoup de gens qui sont douloureusement conscients de leur péché. On entend ça tellement avec la génération, de mes parents, ceux qu'on appelle les baby boomers, puis beaucoup, ici au Québec, ils se font tout le temps dire « Dieu n'est pas content, puis t'es condamné, puis c'est la colère de Dieu, puis la peur, la peur, la peur. » Puis on dit hey, « je veux pas d'un Dieu de même. » Puis c'était tout à fait débalancé. Il y avait des vérités là-dedans, mais c'était sans l'espoir que oui, Dieu est en colère contre le péché. Oui, il y a un jugement qui est à venir. Oui, ces vérités-là sont dans la parole. Mais il y a plus que ça. Dieu est la lumière au bout du tunnel. Il y a de l'espoir avec Dieu. Ce n'est pas la fin de l'histoire, le jugement, puis la condamnation, puis la colère de Dieu qui demeure sur nous. Il y a de l'espoir parce que Dieu est venu pour délivrer, pour donner la vie à ceux qui étaient morts. Et c'est tellement important à comprendre parce qu'il y a des gens même ici ce matin, et j'ose le dire, ce n'est pas parce que je connais les gens, les situations chacun, mais il y a des gens qui en ce moment sont vraiment douloureusement conscients de leurs péchés, de leurs problèmes. Ils ont de la misère à voir le Dieu qui jette la lumière sur leurs ténèbres, puis de voir qu'il est bon, qu'il veut, qu'il peut sauver. Qui peut sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés, puis aussi délivrer ses enfants, parce que les enfants de Dieu ont pas mal des forteresses. Le péché nous enveloppe si facilement. Puis la tromperie, puis il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous enlacer. Est-ce qu'on croit que Dieu nous aime? Puis dans ce qu'on vit en ce moment, il est notre délivrance, puis il aime à se glorifier à travers la grâce qu'il veut nous donner dans ce qu'on vit. C'est tellement important. C'est tellement important parce qu'il y en a qui lancent la serviette. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est leur péché, c'est leur problème, c'est eux-mêmes. Puis ils ne voient pas le Dieu qui, oui, jette la lumière sur ces choses, mais pas pour qu'on contemple tout ce qui était d'internet, mais qu'on contemple celui qui en est la solution, qui en est la sortie. Croire que Dieu nous aime. Ajouter foi à ce qu'il met en lumière dans notre vie. Et donc, je vais amener ce principe tellement important par rapport à tout ce que je viens de vous dire là. C'est qu'on a chacun ici la responsabilité. Ce matin, nous avons la responsabilité de répondre à la lumière que Dieu jette sur notre vie, sur notre cœur. Comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas le choix de ce qui nous est arrivé, puis de ce que Dieu fait, puis de ses voies, parce que ses voies sont tellement au-dessus de nos voies. Mais on a la responsabilité, oui, on a le choix de répondre à ce que lui fait, dans sa grâce bienveillante, se confier en lui, dépendre de lui dans l'endroit où est-ce que il nous amène à voir les ténèbres, le péché, ce que lui met en lumière, de répondre par la foi. Et c'est ça, marcher dans la lumière en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça, combattre avec des armes qui ne sont pas charnelles, puis pour renverser les forteresses, puis amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans ce monde hostile, ça commence en répondant à ce que Dieu lui-même fait. Et comme avec le prisonnier dont je vous ai parlé, je vais partager l'expérience, la réponse de la foi, ajouter foi à ce que Dieu fait, c'est pas la foi dans n'importe qui, dans n'importe quoi. Dieu va amener tout le temps la parole avec la lumière, va amener la lumière de sa parole. Et on répond à ce que Dieu nous dit, qui est dans les Écritures. ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Ça aussi, c'est Ésaïe. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. En fait, c'est Pierre, dans 1 Pierre 1, 22 à 24, qui cite Ésaïe. La semence naît, germe et grandit dans la lumière et par la lumière, comme dans le monde. Une semence a besoin de lumière. Et donc, mon appel ce matin, voici c'est quoi. Je vous invite à vous reposer dans sa lumière. Et je vous cite une strophe de cantique à ce sujet-là. No need, je vais la dire en anglais parce qu'elle est en anglais. No need for hiding here in his light. This truth I treasure, my peace forever. Is being known and loved by him. Pas besoin de se cacher ici dans sa lumière. Cette vérité est mon trésor, ma paix pour toujours d'être connu et aimé par lui. Reposons-nous dans cette vérité. Dieu met la lumière, oui, de nos problèmes, mais pensez-vous que Dieu veut juste nous montrer nos problèmes et dire « arrange-toi avec ça ». Non, il veut montrer qu'il est lumière. Puis marcher dans la lumière, c'est marcher avec lui. C'est marcher dans la délivrance du fait que, oui, il nous montre les ténèbres, mais sa lumière nous montre qu'il est la délivrance. Et on peut être comme ça, mutuellement en communion avec lui et les uns avec les autres. Parce que oui, Dieu révèle ce qui est dans les ténèbres. Vous connaissez, d'ailleurs, vous avez des situations des fois qui vous titillent, vous ne savez pas par où commencer. Priez Daniel 2, 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu révèle. Dieu révèle ce qui est profond et caché, puis il se révèle par le fait même. Et ça, c'est vraiment encourageant parce que ça montre qu'il y a de l'espoir au-delà de ce qui peut nous tirer vers le bas. Donc, demandons-lui ce matin simplement la grâce de marcher dans cette lumière. Parce que c'est un choix qu'il met devant nous. Dieu met devant nous la mort et la vie. La mort des ténèbres, la vie de la lumière. Choisissons la vie. Choisissons de marcher dans cette merveilleuse lumière. Et donc, je vous encourage à répondre par la foi. Moi, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a mis sur vos cœurs ce matin, ce qu'il vous a montré. Peut-être même qu'il est aujourd'hui qui est en train de vous montrer que vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas un enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Pas que vous avez dit des prières, puis faites des bonnes choses. Non, non, vous n'êtes pas passé de la mort à la vie. Vous n'avez pas la marque du surnaturel. Il n'y a pas un avant Jésus, puis un après. Il n'y a pas la transformation de la nouvelle naissance. Si Dieu vous le montre, c'est pas parce qu'il veut que vous restiez de même, puis dites « je ne suis pas sauvé, je ne suis pas sauvable ». Non, c'est parce qu'il veut vous sauver. Parce qu'il vous appelle à lui. Allons à lui. Seigneur, merci pour ce temps béni et précieux dans ta parole. Seigneur, merci que tu te révèles de tellement de façons, mais principalement, Seigneur, par ta parole. Et merci que ce matin, toi, le Dieu vivant, tu avais quelque chose pour chacun ici. Seigneur, que ton peuple ici réuni réponde par la foi. Que les pécheurs qui sont encore dans les ténèbres te voient comme étant la lumière du monde, te voient comme celui qui sauve, qui pardonne, qui a compassion. Qui voit que tu es celui qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Seigneur, on prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.